Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Bienvenue sur Build Yourself. On se retrouve aujourd'hui pour un format un peu spécial, puisqu'à compter de ce jour et pendant les 6 prochaines semaines, je vous mets en ligne une interview qui a été réalisée pour mon autre podcast, Parlons Podcast. Donc si vous êtes intéressé par le monde du podcasting et que vous avez soif d'apprendre de personnes sur le terrain, je pense que ces échanges devraient vous plaire. Donc sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Samia, comment vas-tu ?
Salut Satya, ça va et toi ?
Ça va très bien, merci. Alors du coup, pour ce deuxième round, pour remettre un peu en contexte, on a réalisé une première interview que j'ai adorée, qui était très cool, dans ma tête. Mais en termes de qualité sonore, disons que c'était pas la meilleure piste. Il a fallu que ça tombe sur cette interview-là, que j'ai un son de merde.
Alors que tes autres interviews étaient nulles, mais t'avais un super son. Non, je rigole.
C'est vrai que je me suis dit quand même, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Heureusement que tu es disponible pour une nouvelle fois raconter un peu ton parcours et ton expérience là-dessus. Alors du coup, tu as fait Sciences Po Rennes pour devenir journaliste. Et puis finalement, à un moment donné, tu as bifurqué un peu dans le nucléaire. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette expérience-là, ce qui t'a amené là-bas ?
Oui, tout à fait. Parce que donc effectivement, à la base, je ne m'orientais pas du tout vers les podcasts. J'étais rentrée à Sciences Po Rennes initialement en voulant devenir journaliste. Pas journaliste radio spécialement, mais en tout cas journaliste, même si j'écoutais quand même beaucoup la radio à ce moment-là. J'écoutais pas mal France Inter et France Culture. Mais ce n'était pas du tout mon idée. C'était plutôt travailler peut-être en presse écrite. Et au final, je me suis intéressée aux relations internationales. Je me suis spécialisée là-dedans et j'ai complété ça avec un master aux États-Unis, toujours en relations internationales. Mais là, je me suis spécialisée en nucléaire parce que j'ai pris un cours sur les armes nucléaire et que ça m'a plu énormément et d'un coup j'ai pu prendre des cours de physique, chose qui était bizarre pour moi parce que j'ai toujours eu un profil très très littéraire en fait, les maths, la physique me donnaient mal au ventre, et j'ai fait L, donc ça en dit long, pour me dire de ma détestation des maths et de mon amour pour les matières littéraires et donc au final c'était un peu par hasard que j'ai commencé à m'orienter vers ça, à prendre plein de cours sur le nucléaire et ça a aidé d'être aux États-Unis pour ça parce que là-bas les frontières entre les filières sont un peu moins poreuses qu'en France, donc c'est pas parce qu'on est dans une filière littéraire entre guillemets qu'on peut pas prendre des cours un peu plus scientifiques. Voilà, je sais pas, ça m'a trop intéressée. Je suis rentrée en France, j'ai travaillé un peu au CNRS et un peu au ministère de l'Intérieur, sauf que les missions en tout cas au ministère de l'Intérieur étaient intéressantes, mais c'était plutôt l'ambiance qui me plaisait pas, avec des gendarmes et des policiers, et j'ai pas besoin de dire plus je pense. Et du coup finalement je me suis dit bon allez je démissionne, on était début 2018, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais dans la vie active, hein, ça faisait peut-être 2 ans et demi, j'ai tout lâché. Donc à l'époque, la rupture conventionnelle n'existait pas dans la fonction publique, ça a changé depuis. Donc c'était démission. Ouais, parce que je me suis retrouvée au RSA. Alors à l'époque, je vivais encore chez mon copain, enfin chez mon copain, non en fait, à la base on vivait ensemble, on avait pris un appartement ensemble, mais là à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus payer le loyer évidemment, mais il m'avait dit, mais t'inquiète pas, fais le fonce, je prends le relais pendant quelques mois jusqu'à ce que tu retombes sur tes pattes, tu vois. Et il savait que je voulais que je voulais passer en indé et que je voulais faire des podcasts et complètement me reconvertir. Il me disait, vas-y, il n'y a pas de souci. Et au final, bon, bah, j'ai un peu vivoté, j'avoue, pendant quelques mois, j'ai un peu profité du fait d'être, tu vois, un peu
C'est normal.
libre, mais sans, voilà. Donc en fait, le RSA, c'était de l'argent de poche, donc c'était sympa. Et puis, on s'est séparés, et là, j'ai dû revenir chez mes parents. J'ai dû retourner chez mes parents, parce que concrètement, j'avais pas d'endroit où vivre. Et bah là, ça
T'es
m'a
parisienne à la
forcé.
base, ou du coup
Ouais,
t'es
alors
allée
de région parisienne. Mes parents habitent dans les Yvelines, donc vraiment,
Okay, ouais.
c'est pas là que j'ai grandi. Hein. J'ai grandi à Fontainebleau, mais enfin, tu vois, région parisienne aussi,
D'accord.
donc voilà.
Ouais.
Et là, mes parents sont dans les Yvelines, donc bah, c'est pratique aussi, parce qu'on peut ne pas être trop loin de Paris. Et donc, j'étais chez mes parents pendant un temps, mais j'avais. Pratiquement 30 ans à ce moment-là, j'avais 29 ans, presque 30 ans, et j'avais pas du tout envie de revenir chez mes parents longtemps, tu vois.
Ouais,
Et
tu
donc, ça m'a
m'étonnes.
mis un coup de pied au cul pour chercher des missions dans le podcast. À la base, c'était pour écrire sur les podcasts, donc j'ai fait ça un petit peu pour Audible et d'autres entreprises. Et puis après, j'ai commencé à faire des podcasts moi-même. J'ai lancé mon premier podcast en indépendante, un documentaire voilà, sur les street medics, parce que j'avais pu suivre une formation de podcast qui s'appelle Transmission. Donc voilà, mais c'est évidemment pas ça qui m'a rapporté de l'argent. Ça, c'est un truc que j'ai fait de façon totalement bénévole. Mais ça m'a aidé en tout cas ensuite à trouver des jobs rémunérés. Et au début, bon, bah, j'ai un peu galéré, mais au moins j'ai pu me prendre un appartement qui était pas cher et me débrouiller. J'avais pas de sous pour faire quoi que ce soit quasiment, à part payer mon loyer et mes charges. Mais voilà, après, c'est de la précarité choisie. Hein, donc je peux pas, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières. C'est vraiment entièrement de la précarité choisie. J'ai quand même fait une grande école, donc voilà, c'est pas, je suis pas au même niveau que des gens vraiment précaires, quoi.
Et du coup, le, en fait, dès que tu as décidé de quitter ce job dans la fonction publique qui ne te plaisait pas, tu savais que tu voulais vivre du podcast.
Oui, je savais, parce qu'en fait, j'écoutais beaucoup de podcasts. Donc déjà, justement, je parlais des États-Unis, c'est là que j'ai commencé à écouter des podcasts, puisque j'étais aux États-Unis quand Serial est sorti. Donc la première saison de Serial, qui est un podcast qui a fait vraiment, enfin oui, qui est le podcast qui a fait exploser justement l'audio aux
Le podcast.
États-Unis. Exactement, exactement, c'est ça. Et en fait, c'était bon, sur une affaire criminelle, un cold case en fait, sur lequel la journaliste revenait, et c'était génial. Donc moi, ouais, j'ai adoré. J'ai commencé à découvrir des podcasts américains, des podcasts français. Ça commençait aussi à se mettre en place en France, petit à petit. Et un jour, je me suis dit, waouh, ça serait trop bien de parler de podcast. Il y avait aucun média à l'époque qui parlait de podcasts indépendants. Les podcasts natifs indépendants. Il y a encore même les podcasts natifs tout court, en fait. Enfin, franchement, il y avait très très peu de choses. Et Télérama parlait essentiellement de radio, voilà, vraiment, vraiment quasiment tout le temps. Et donc, j'avais créé un petit blog qui s'appelait Radio Tips, et je donnais des conseils d'écoute de podcasts à l'époque. Donc, j'ai lancé en 2017. Donc, j'étais
Tu
encore en
partageais
affaires de
des
l'intérieur.
podcasts
Ouais. Et je suis trop bête parce que le nom de domaine m'a échappé l'année dernière. J'ai pas renouvelé. Enfin,
Ah,
idiote, quoi.
dommage.
Mais il faudrait que je change de nom de domaine, et le site est toujours là. Mais bon, bref, c'est dommage. Parce que. Donc voilà, je mettais mes recommandations d'écoute. C'était, voilà, c'était un petit webzine, quoi. Je postais des critiques. Donc là, j'étais encore au ministère de l'Intérieur quand j'ai lancé ça. Et en fait, bah, quand j'ai lâché tout, je me suis dit, bon, bah, je vais écrire sur les podcasts et peut-être faire des podcasts après. Mais en tout cas, l'intérêt pour les podcasts était déjà très, très présent. Je rêvais, en fait. Je rêvais d'en faire. Je rêvais aussi de faire quelque chose de créatif. Parce que
Ouais.
jusque-là, j'avais toujours fait des trucs de bureau. Je m'orientais vers une carrière un peu de bureau, quoi, plutôt dans la fonction publique, à gravir les échelons. Et finalement, aujourd'hui, je suis très très heureuse d'être indépendante, et surtout de bosser dans un secteur créatif, quoi.
Mais du coup, Radio Tips, quand tu l'as lancé, tu n'avais pas eu de projet de développer ça professionnellement, par exemple de monétiser le site d'une manière ou d'une autre, etc.
Si, alors si, en fait, j'avoue que c'était un peu le projet à la base. D'ailleurs, j'avais un tout petit peu monétisé. J'avais eu un partenariat avec Audible et un partenariat avec Ocha. Donc, j'avais créé des articles en fait en partenariat avec eux qui étaient publiés sur Radio Tips. Oui, en fait, j'avais commencé ça. C'était quand même, je crois, pas mal fréquenté. J'ai plus du tout les chiffres, mais j'avais quand même une audience qui n'était pas ridicule. Hein. Et en plus, bah, c'est intéressant parce que j'étais la seule sur ce secteur-là. Après, maintenant, Télérama maintenant parle de plus en plus de podcasts natifs. Mais à l'époque, vraiment, c'est pas pour dire qu'il y avait que moi, mais franchement, il y avait
Non,
que
mais c'est vrai que
moi.
t'étais au début, ouais.
Ouais,
Clairement.
vraiment au tout début, c'est clair. Et puis voilà, donc au départ, je me disais, oui, je vais. Bah, en fait, j'aime beaucoup écrire aussi. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Mais d'ailleurs, c'est intéressant intéressant parce qu'aujourd'hui j'écris un roman, donc au final je reviens quand même à l'écriture. Mais en attendant, au départ c'était plus ça, parce qu'aussi je me sentais pas légitime à faire du podcast. Je me disais, oh là là, il faut faire des années d'études. Et bon, bref, en fait j'ai eu de la chance, parce que quand j'ai démissionné, il y a eu cette formation effectivement Transmission qui s'est lancée, qui était gratuite à l'époque, qui aujourd'hui est prix libre, donc c'est hyper intéressant, avec des journalistes de RFI. Et ben là j'ai pu commencer à mettre les mains dans le cambouis, me former. Et c'était super parce qu'en fait, c'était hyper collectif comme expérience. C'était pas juste top-down, quoi. C'était vraiment un vrai travail collectif. Et c'était hyper intéressant. C'était associatif complètement. Et donc, bah, c'est comme ça que je me suis dit, OK, je vais essayer. Mais enfin, c'est pas parce qu'on commence que d'un coup, on est un génie, quoi. Donc, il y a quand même beaucoup de galères. On se dit, mince, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? On a parfois des retours qui sont pas toujours dithyrambiques. Enfin, moi, mes premiers enregistrements, on m'a dit tout ce qui allait pas. Je me disais, oh là là, mais j'y arriverai jamais, en fait. Je suis nulle. Enfin, c'est pas mon truc, quoi. Et en plus, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était le documentaire en particulier. Et c'est ce que faisait. Enfin, c'était la spécialité aussi des profs de transmission, quoi. C'était vraiment pour nous faire du documentaire. Pourquoi pas de la fiction, mais en tout cas, plutôt des formats exigeants, pas de l'interview, quoi. C'était vraiment, ils avaient insisté là-dessus, des formats narratifs, etc. Et donc, bon, bah, forcément, c'est long, hein, d'apprendre ce genre de choses. Donc au début je me disais, mince, j'y arriverai jamais. Je me suis fait refuser des projets, bien sûr, parce qu'on se fait toujours refuser des projets dans n'importe quel domaine créatif. Je me suis fait refuser tous mes pitchs, quoi, pendant des mois, et je me disais, mais j'y arriverai pas, c'est pas possible, il y a un truc que les autres ont que je n'ai pas. Et bah, au final, bah non, en fait c'est persévérer, c'est tout. C'est pas que les autres ont quelque chose, c'est que à la limite, ce qu'il faut avoir absolument, c'est la ténacité pour pouvoir revenir au combat alors qu'on s'est fait, on s'est pris des scuds plein de fois, quoi. Voilà.
Clairement. Et du coup, pour gagner ta vie en parallèle du fait de contacter des studios pour pitcher tes idées de podcast, documentaire, comment tu faisais pour payer ton loyer ?
Alors, concrètement, au tout début, j'écrivais aussi des articles, j'avais encore Radiotips, mais j'écrivais aussi des articles sur les sites de Ocha et d'Audible. Et donc ça, mine de rien, ça marchait pas mal parce que j'écrivais plusieurs articles par mois et franchement, ça me faisait quasiment vivre. Plus, j'ai eu rapidement aussi, via du bouche à oreille, un boulot de montage. J'ai fait des missions de montage pour Léa de Je ne suis pas jolie, une youtubeuse, pour son podcast. C'était vraiment les tout premiers épisodes de son podcast, quoi. Mais là, c'était vraiment, j'étais juste exécutante, quoi. C'est-à-dire que j'avais la responsabilité de l'enregistrer et du montage derrière, quoi. Et évidemment, c'était elle qui animait tout ça. Et donc voilà, c'était des petites choses comme ça, mais c'était des petites missions par-ci, par-là, en fait. Hein. Jusqu'à ce que Binge Audio sélectionne un de mes pitchs pour Programme B. Voilà, c'était un épisode. Donc, on n'était pas sur une série encore, évidemment. Mais déjà, un épisode, c'était super. Et de fil en aiguille, j'ai commencé comme ça à pouvoir de plus en plus travailler avec des producteurs. J'ai eu mes séries qui ont été acceptées par Slate et Spotify en même temps, à peu près au même temps. Enfin, elles sont pas sorties en même temps, mais elles ont été acceptées à peu près en même temps. Et donc, d'un coup, j'ai commencé à me dire, ok, je commence à voir que je vais quelque part. Parce qu'il y a eu un moment où je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas fait une énorme connerie, en fait ? Après, j'aurais toujours pu revenir. C'était pas trop tard, parce que j'étais pas sortie depuis très longtemps de mon cursus classique, entre guillemets. J'aurais pu revenir sûrement dans la fonction publique, mais bon, j'en rêvais pas, quoi. J'avais envie de continuer plutôt à faire du podcast, donc bon, bref, voilà. Donc en tout cas, je pense que j'ai mis à peu près on va dire un an pour me stabiliser financièrement. Avant ça, c'était assez compliqué quand même. En plus, il y a les retards de paiement, enfin ça j'en ai pas parlé, mais enfin il y a évidemment des fois on a des missions, mais ça veut pas dire qu'on a concrètement les sous qui tombent sur le compte. Enfin, des fois j'ai dû me battre pour avoir des paiements et payer mon loyer à temps. Ça m'est arrivé de ne pas pouvoir payer mon loyer à temps. D'ailleurs, j'ai témoigné il y a pas longtemps, il y a un an, dans Mediapart sur le sujet de la rémunération dans le podcast, pour parler de Slate, hein, concrètement, qui, en fait, j'ai galéré pour me faire payer. Et c'était des mails incessants et je n'avais pas pu payer mon loyer à temps. Enfin, c'était un stress pas possible. Donc, tout ça pour dire que quand même, j'ai découvert aussi les déboires de la vie de freelance qui ne sont pas du tout obligatoires normalement. Il suffit d'avoir des gens qui sont honnêtes en face de soi. Mais bref, voilà.
Mais voilà, c'est pas à tous les coups, tu tombes pas sur... voilà. Je pense que ça va... Beaucoup de personnes vont se reconnaître dans cette situation-là, de devoir quémander sans arrêt pour avoir son dû, ce qui est juste incroyable. Mais bon, puisqu'on est dans le sujet de la rémunération, autant parler du sujet et des droits d'auteur. Du coup, dans ton cas précis, tu es une podcasteuse qui vend des histoires, des documentaires à des studios. Bon, maintenant, tu as des podcasts indépendants, etc., dont on va parler après. Mais le plus grand de tes podcasts, parce que tu en as beaucoup, je vais les citer, comme ça c'est fait, pour que les gens aient une idée du travail que tu as accompli depuis un bout de temps, parce que moi, je te l'ai déjà dit, mais c'est ça que j'admire beaucoup chez toi, c'est que t'es dans le podcast depuis avant que ce soit tendance en France, et ça se voit que c'est une passion, tu vois, ça se voit que c'est vraiment un truc qui t'anime à fond. Donc on a les forces du désordre, Boosty, secouriste, sex club, CDI x2, salaire x4, garant x2 minimum, Damien, l'école et la colère, la chamade, une époque formidable, Marseille, morne pleine, ainsi qu'un autre podcast que tu as fait sur les droits d'auteur pour la SCAM. Donc voilà, un petit florilège.
Voilà.
Un petit florilège de ce que tu as pu produire, ce sur quoi tu as pu travailler. Et donc, quand on travaille comme ça avec des agences et des studios, comment se passe la rémunération ?
Ok, alors la rémunération, déjà, donc, on s'entend sur... Soit c'est le studio qui demande un devis, c'est rarement le cas. Souvent, ils vont t'indiquer les tarifs avec lesquels ils travaillent habituellement. On peut dire oui ou non, c'est parfois bas, hein. Parfois c'est très très bas.
C'est ce que j'allais dire, du coup, c'est eux qui mènent un peu le truc, quoi.
Un peu, c'est vrai. Par exemple, on peut te proposer 500 euros pour un documentaire entre 20 et 30 minutes. Hein. Il faut imaginer le nombre de jours de travail derrière.
Ouais.
Et se demander si 500 euros, c'est intéressant. 500 euros net, hein, je précise. Hein, c'est-à-dire une fois vraiment qu'il tombe dans la poche. Mais enfin, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Donc, concrètement, on est payé à la base par un producteur. Parce qu'on travaille... Donc, on a été pris, en tout cas, pour faire... donc que ce soit une commande ou un sujet qu'on a pitché soi-même, c'est nous qui allons faire, par exemple, l'enregistrement, l'écriture de l'épisode. En l'occurrence, l'écriture de l'épisode, c'est sûr, puisqu'on est auteur ou autrice. Souvent, c'est l'enregistrement aussi. C'est rare qu'on soit accompagné d'un ingé son. En général, on gère ça. Parfois, on gère le montage derrière. Bref, donc voilà. En tout cas, il y a un tarif sur lequel on doit s'entendre à la base. Ensuite, si le producteur... Le producteur, en fait, souvent, est celui qui, derrière, va être aussi l'exploitant du podcast. Donc, c'est lui qui va le mettre en ligne et c'est lui qui va récupérer un peu les bénéfices, en fait, de la mise en ligne de ce podcast-là. Par exemple, Binge Audio va me produire mon projet et, en même temps, va mettre le podcast en ligne et c'est eux qui vont exploiter le podcast ensuite, qui le distribuent sur les plateformes, etc. et toucher peut-être des revenus grâce à ça. Et donc, là, ce n'est pas en tant que producteur, mais c'est en tant qu'exploitant qu'ils doivent reverser des droits d'auteur. Donc, pourquoi ils doivent ? Parce qu'ils ont signé un accord avec la SCAM. Tout le monde ne l'a pas fait. Eux, ils ont signé un accord avec la SCAM, ce qui normalement, ils devraient tous le faire hein, en France. Hein. On y reviendra après, c'est pas le cas toujours. Mais mettons, donc Binge Audio, pour le coup, a vraiment signé un accord avec la SCAM. Donc, ça veut dire que tous les ans, derrière, je vais recevoir des sous parce que le podcast reste en ligne. En fait, d'année en année, il est en ligne, donc à chaque fois, je vais recevoir un petit peu de sous. Et donc, ces sous-là viennent concrètement de Binge Audio, qui les a envoyés à la SCAM. La SCAM a dit, OK, voilà, on a cette enveloppe de Binge Audio et on a tant d'auteurs, autrices qui ont travaillé pour Binge, on va répartir cet argent-là.
Ça fonctionne comme ça, OK. Je pensais que c'était genre, tu vois, comme les auteurs, un pourcentage sur le livre ou quoi, mais en fait, au final, pas
non,
forcément.
En fait, c'est ça. Non, en fait, c'est ça. Et en plus, là, aujourd'hui, quelle que soit la durée du podcast, quelle que soit, on touche la même chose. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de discrimination entre les différents types d'œuvres. Peut-être un jour, ce sera le cas. Et je pense que c'est le cas dans d'autres formats. Le podcast est encore jeune. Donc, pour l'instant, on est sur du vraiment basique. Hein. Faut aussi se dire que les podcasteurs ne vont pas toucher des 1000 et des 100. Hein. Pour les droits d'auteur, c'est extrêmement light. Hein. On n'est pas sur les budgets télé. Hein. Donc, forcément, c'est pas énorme. Ça reste des petites structures pour la plupart, donc qui n'ont pas énormément de moyens, qui vont verser un pourcentage de leur chiffre d'affaires pour les droits d'auteur. Donc, c'est un peu basé sur leur chiffre d'affaires à la base. Mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister. Et le droit d'auteur a le mérite d'exister en France. Et on espère qu'un jour, les montants seront plus importants. Par contre, je disais tout à l'heure que tout le monde n'a pas signé d'accord avec la SCAM. Et par exemple, c'est le cas de Spotify. Spotify, Deezer, ce genre de plateformes, n'ont pas signé d'accord avec la SCAM et a priori ils vont pas le faire à mon avis. Enfin, il y a des discussions mais je doute fortement. Parce que ça les intéresse pas parce que ben, t'imagines tous les podcasts qu'ils ont sur leur plateforme. Enfin bref, donc c'est très compliqué. Et donc moi par exemple quand j'ai bossé avec Spotify deux fois, ben, ça veut dire que j'avais pas droit d'auteur. Donc on va pas rentrer dans les détails de tout le contrat avec Spotify, mais juste en gros, moi ils me donnent des sous, ils me donnent une enveloppe Spotify et en fait avec ça, ben, voilà, mon podcast est payé et puis derrière j'aurais pas droit d'auteur. Ça veut dire aussi que le podcast derrière leur appartient complètement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. J'ai pas mon mot à dire. C'est à l'anglo-saxonne, en fait. Hein. C'est un autre type de statut qu'en France. C'est un peu discutable. Parce que là, je travaille avec Spotify en France. Mais voilà. En tout cas, c'est pas une entreprise française, donc c'est possible. Et donc, après, on peut faire son calcul et dire, OK, mais Spotify me paye mieux que la plupart des autres studios de podcasts français, puisque forcément, ce n'est pas la même dimension d'entreprise, donc forcément, ils ont beaucoup plus de sous, c'est logique. Hein. Mais je peux me dire aussi, bon bah voilà, en attendant, entre faire par exemple ce projet-là pour Binge, qui m'aurait payé beaucoup moins cher et j'aurais reçu quelques euros par-ci par-là de droits d'auteur, et travailler avec Spotify qui m'a payé beaucoup plus généreusement, entre guillemets, hein, c'est pas de la générosité, hein, c'est mon travail. Mais bon, imaginons, voilà. Et bah derrière, j'ai pas de droit d'auteur du tout, mais je pense que je suis quand même gagnante financièrement. Après, il y en a qui vont dire, bah oui, mais je suis désolée. Moi, pour moi, les droits d'auteur, c'est hyper important. C'est un truc qu'il faut défendre en France. Je refuse de travailler avec une entreprise qui ne reconnaît pas les droits d'auteur en France et je comprends tout à fait. Voilà, moi j'ai fait ce choix-là, mais je comprendrais tout à fait aussi que quelqu'un dise, bah non, en fait, c'est un principe auquel je ne veux pas renoncer et ça s'entend. Voilà.
Complètement. Du coup, tu as un taux horaire et puis finalement, ouais. Tu vas réfléchir au temps que tu vas passer sur un épisode ou une série, du coup.
C'est ça, exactement. Donc en fait, bah là, concrètement, on fait épisode par épisode. Par exemple, si je vends une série, je vais dire, OK, déjà, j'écris un plan d'épisode. Donc ça, c'est avec le producteur qu'on fait ça. OK, on va faire tant d'interviews à peu près. Donc voilà, à partir de là, je peux estimer combien de temps de travail j'aurai, donc pour l'enregistrement, l'écriture, etc. C'est une estimation, évidemment, en réalité, tout change. En plus, des fois, quand on commence à enregistrer, bon, bah, y a des gens qu'on avait prévu d'enregistrer qui ne sont pas dispo ou qui ne veulent pas. Et finalement, il y a d'autres personnes qui apparaissent. Enfin bref, donc on ne peut pas tout prévoir. Mais en tout cas, on peut prévoir à peu près le nombre de jours de travail. Au bout d'un moment, en tout cas, on commence à avoir une idée un peu plus précise de ça. Et donc, bah, moi, ce que je fais, c'est ça. C'est j'ai un taux horaire, pas un taux horaire d'ailleurs, plutôt un taux journalier par jour.
Okay.
Et ensuite, je fais le nombre de jours de travail, je calcule ça, je vois à la fin ce que ça donne. Si c'est une série, voilà, je calcule pour toute la série. Parfois, ça fait un tarif qui est vraiment énorme. Donc là, dans ce cas, je vais voir, je vais dire par exemple, si on m'a pris 10 épisodes, bon, bah, je vais faire un peu moins. Je vais un peu baisser mon tarif journalier pour, voilà, pour prendre en compte le fait quand même qu'on m'a commandé 10 épisodes. Alors que si c'est juste un épisode et ensuite on verra pour peut-être 9 autres, bon, bah, alors je prends en compte le fait que ça se trouve ça va s'arrêter, donc là je demande voilà le tarif habituel quoi. Le tarif aussi va dépendre de est-ce qu'on bosse avec Spotify par exemple ou avec une petite association. C'est pas pour dire que parce que c'est une petite asso on doit se brader, hein. Une asso doit payer comme tout le monde, mais en attendant évidemment on va pas attendre les mêmes niveaux de rémunération. Voilà, mais je conscience aussi que c'est vague ce que je dis parce que je parle pas de chiffres concrets parce qu'en fait ça varie tellement d'un truc à l'autre, mais bon ça varie tellement, mais en tout cas je sais que 500 €, même net, hein, pour un documentaire de entre 20 et 30 minutes, c'est niet pour moi. Donc ça, je peux le dire. Voilà.
Je trouve que c'est déjà un bon indicateur pour les personnes qui nous écoutent de se dire, en fait, faut vraiment prendre en compte tout le travail en amont.
C'est ça.
Et pas s'arrêter à la durée de l'épisode, quoi.
Exactement.
Parmi toutes tes productions, est-ce que tu as un favori, un dont tu es particulièrement fière ?
Une production à moi, tu veux dire ?
Oui.
Alors, oh là là, bah, je pense que c'était deux.
Allez, vas-y.
J'en sais pas parce que j'ai fait deux trucs géniaux. Hein. C'est que, en fait, pour moi, ça illustre deux trucs très différents, en fait, donc deux formats très différents. Damien, l'école et la colère, sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans. Un documentaire où j'ai suivi un élève qui fait des crises de colère en CM2 et en 6e. Donc là, un énorme projet et qui a été passionnant, super dur aussi, avec plein de hauts et de bas. Vraiment, pour moi, c'est... En fait, c'est un aboutissement pour moi, ce projet-là, parce que j'ai vu que je pouvais vraiment tenir un projet sur le temps long. Que, voilà, c'est pas facile aussi de garder la motivation. Ça a aidé aussi parce que j'étais avec une super équipe, donc Laurie Gagny, ma réalisatrice, Paloma Soria Brown, qui est productrice à Spotify. Et donc, c'est super, parce qu'en fait, on garde la motivation grâce aux personnes avec qui on bosse aussi. Mais bon, il y a forcément des ups et des downs. Et donc, je suis trop contente, surtout qu'on ait réussi à faire quelque chose de tous ces enregistrements-là. À la fin, j'avais 300 enregistrements. Sur 1 an et demi, et c'était vertigineux, quoi. Et donc, il fallait faire 6 épisodes qui faisaient sens de tout ça. Et donc, ça, je suis hyper fière, vraiment hyper fière de ce boulot-là. Hyper fière parce qu'encore aujourd'hui, là, je reçois des messages de gens qui me contactent, des instituts ou des parents d'élèves qui me contactent via mon site ou directement sur Instagram pour me dire « mais merci, enfin, c'est exactement ça, ce que vous avez raconté, c'est pile poil ça ». Donc moi qui ne connaissais rien à la base au sujet, je suis quand même contente parce que je suis toujours un peu déçue en froid, ouais. En fait, que quelqu'un me dise « c'est n'importe quoi en fait, vous êtes complètement à côté de la plaque, pour l'instant ça a l'air d'aller ». Et je suis contente que des gens se reconnaissent et sentent que bah, ça les a aidés et qu'en tout cas, ils se sentent entendus. Que ça les aide, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'ils se sentent entendus. Donc voilà, ça, c'est Damien. Et bah, dans un registre complètement différent, donc je pense qu'on va peut-être en parler après, mais La Chamade, qui est un projet plus récent, qui est un projet de talk, en fait. Hein, c'est de la conversation dans lequel je raconte des vraies histoires d'amour de personnes anonymes à des invités. Et là, bah, c'est un autre format, mais je suis hyper fière parce que c'est mon premier projet, enfin mon premier podcast indépendant, en même temps qu'Une Époque Formidable, ça s'est lancé peu de temps avant Une Époque Formidable. Mais voilà, en tout cas, c'est tout récent pour moi de faire ce format-là et j'adore, je prends beaucoup de plaisir parce que, à la fois, le format conversation est hyper chouette, le sujet et Feel Good, ça change aussi de mes podcasts habituels et des podcasts en général. Et puis, en plus de ça, je découvre aussi le côté business autour du podcast parce que là, c'est vraiment mon bébé, mon projet. J'ai pas de producteur, ce qui peut être un peu inquiétant aussi parce que des fois, on se dit, oh là là, le temps qu'on passe pour au final, est-ce qu'un jour on va être rémunéré pour ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est hyper chouette pour moi aussi d'aller démarcher des sponsors, de convaincre, de montrer mes chiffres. En fait, voilà. Puis aussi, ça aide maintenant que là, le podcast progresse vraiment en termes d'audience, vraiment de façon significative. Les premiers mois, je peux te dire que voilà, je regardais pas tous les jours les chiffres, hein, parce que ça me déprimait un petit peu.
Aujourd'hui, donc, tu fais combien d'écoutes mensuelles avec celui-là ?
Alors là, aujourd'hui, je vais te montrer en fait l'évolution surtout. Là, je suis, j'ai regardé ce matin, 7300 écoutes sur les 30 derniers jours, ce qui paraît pas gigantesque, mais ce qui est fou, c'est que la semaine dernière, j'étais à 6000. En fait, ça monte. En fait, là, je suis sur une courbe de dingue depuis fin décembre, en gros. Slate a mis La Chamade dans les 10 meilleurs podcasts de 2022. Et à ce moment-là, La Chamade était encore un petit podcast, hein, franchement, petit podcast. Et là, d'un coup, depuis, ça fait comme ça, la courbe, c'est enfin, je fais comme ça. Alors, c'est pas très podcastique, donc ça monte. En
fait. Croissance. Voilà.
Exactement. On est sur une croissance nette. Et donc, non, mais c'est assez fou, en fait, à quel point, d'une semaine à l'autre, les chiffres explosent. J'ai aussi été mise en avant par Spotify à un moment pendant une semaine. Donc, c'est pour ça que je pense que je suis sur la bonne voie. C'est pas que les chiffres aujourd'hui sont exceptionnels, mais c'est que ça va hyper vite, quoi. Donc, pourvu que ça dure. Là, je suis beaucoup plus organisée pour cette saison-là que pour la première. Maintenant, j'ai vraiment un épisode toutes les deux semaines, donc un mercredi sur deux sans faute. À 6h du matin, ça sort, quoi qu'il arrive. J'ai des invités un peu plus connus aussi, des gens qui parlent d'amour dans leurs livres.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Dans leurs chansons, voilà, des artistes que j'apprécie. Et puis, je me rends compte aussi que juste, il y a de plus en plus de bouche à oreille, et ça aide énormément. Et c'est vraiment, les chiffres sont vraiment exponentiels, donc c'est super chouette. J'ai aussi de plus en plus d'histoires d'amour qu'on m'envoie. Enfin, voilà. Donc, c'est génial de faire un podcast et de savoir qu'il est écouté. C'est vraiment génial, parce qu'il faut savoir que quand je faisais des documentaires, je ne voulais pas connaître mes chiffres, hein, donc je n'ai jamais su.
Ah, c'est vrai ?
Ah ouais, c'est la première fois, en fait, avec La Chamade, que je vois mon audience, en fait, parce que je pense qu'à la base, La Chamade, je n'avais pas trop d'attentes particulières. Je me disais, un jour, ça va marcher, mais au début, ça va être compliqué, mais ce n'est pas grave. Enfin, tu vois, à chaque fois, je bosse pas mal pour chaque épisode, mais je ne voulais pas, par exemple, là, bosser pendant 2 ans sur Damien et peut-être être déçue, j'en savais rien. Enfin, je ne savais pas.
Oui.
Mais peut-être que c'est super, hein, mais je ne voulais pas savoir. Et donc, je ne veux pas savoir. Je n'ai jamais su mes chiffres. J'ai toujours dit, je ne veux pas savoir mes chiffres. Donc là, La Chamade, c'est totalement différent. C'est une autre approche, quoi.
Ouais, et puis, tu vois, je trouve le format hyper rafraîchissant par rapport au podcast français. En fait, c'est un peu paradoxal parce qu'il y a énormément de podcasts francophones. Pour autant, c'est dur aussi d'en trouver des bons, tu vois. Donc, c'est un peu frustrant. Et je trouve que toi, t'es arrivée avec quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, ça me choque pas. Enfin, je suis pas surprise. Tu vois, t'es dans le podcasting depuis des années. Ça te passionne. T'es vraiment... Tu fais beaucoup de veille. Tu vois, t'en consommes énormément. Donc, c'est pas le hasard que tu arrives avec un format qui soit innovant comme ça, qui soit aussi dans l'interaction. Et je trouve que, en fait, ça fait du bien. C'est exactement ce qu'on peut retrouver chez les podcasts américains. Sauf que là, c'est en français.
Exactement. Mais c'est ça, t'as tout dit, parce qu'en fait, moi, j'écoutais beaucoup de podcasts américains, ils sont hyper innovants sur les formats, ils sont trop forts, et ils sont trop forts aussi dès qu'il s'agit de conversation. Enfin, les Américains, ils ont ça dans le sang, quoi. Enfin, ils ont pas ça dans le sang, d'ailleurs, c'est pas génétique, hein. Ils ont ça parce qu'ils ont appris, enfin, pour avoir fait 3 ans d'études, du coup, aux États-Unis, je peux dire que les Américains ont beaucoup plus confiance en eux pour prendre la parole, en classe, etc. Et donc, je pense que ça joue après dans tous les aspects de la vie. Et donc, dans le podcast aussi, ça produit des choses extraordinaires. Et donc, moi, j'adore les formats. Il y a beaucoup de formats comme ça, à 2 voix, aux États-Unis, avec un des 2 hôtes qui racontent une histoire à l'autre hôte. Ou alors à un invité qui change à chaque fois. Par exemple, Normal Gossip. Voilà. Et donc, moi, je me suis dit, OK, ça, j'adore ce format-là. Et donc, j'aimerais bien l'utiliser, mais pour quelque chose qui me passionne. Et donc, ce qui me passionne, c'est les histoires d'amour depuis toujours. Vraiment, j'adore en parler. C'est mon sujet principal de conversation. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment le moment où, tu sais, quand tu connais pas très bien quelqu'un, t'as des rapports un peu superficiels avec la personne. Et puis, d'un coup, tu commences à parler d'amour, de la situation amoureuse. Bah, moi, je sais pas, c'est compliqué. Je sais pas où trop j'en suis avec mon copain, ma copine. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et là, d'un coup, ça y est, on passe à une autre étape de la relation, à un autre niveau. Enfin, pour moi, c'est génial. C'est là aussi, les gens se montrent un peu plus vulnérables. C'est pas évident, des fois, de parler de ce genre de choses. On a tous des failles à ce niveau-là. Et donc, j'adore. Bref, j'adore parler de ça. Et je trouve que ça rapproche vraiment les gens. Et donc, forcément, j'avais envie de parler de ce sujet-là. Et avec ce format un petit peu atypique en France, mais effectivement beaucoup plus répandu aux États-Unis. Et voilà, donc forcément, ça prend du temps à faire parce que c'est à chaque fois aller chercher bon, les histoires. Maintenant, elles me sont envoyées directement, donc je sélectionne les histoires. Mais après, je passe environ une heure, voire une heure et demie au téléphone avec les personnes qui m'ont envoyé leur histoire pour avoir le maximum de détails. Ensuite, je passe encore des heures derrière pour scripter tout ça. Ensuite, je passe, une fois, après on enregistre, après il y a le montage, j'enlève vraiment les « e », je suis sans pitié, quoi, vraiment les longueurs, les trucs chiants, mais vraiment sans pitié, quoi. Et j'ai pas de longueur absolue, genre je dis pas bah, « il faut que ça dure 45 minutes absolument » ou « 50 minutes, je m'en fous ». Je crois que le plus court est à peu près de 40 minutes et le plus long est d'une heure et quart. Donc en fait, j'ai pas vraiment de... On s'en fout. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'on n'entende pas les coupes, ou vraiment au minimum, et qu'on n'ait pas de moment chiant, surtout. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un auditeur qui se fait chier, en fait. Donc, si on voit, répète quatre fois la même chose, dans les conversations, on répète toujours quatre fois la même chose. Donc là, j'enlève ça, et voilà.
Donc, comment tu sélectionnes beaucoup de boulot. Les histoires
alors, comment je sélectionne les histoires? Il faut qu'il y ait des rebondissements, déjà, parce que, évidemment, si c'est résumé en trois phrases, bon bah, ça ne va pas le faire pour le podcast, sinon ça va être très très court. Donc, il faut qu'il y ait des rebondissements. Il faut que l'histoire soit encore en cours aussi, parce que j'aime bien qu'il y ait à la fin une dimension conseil, que les gens soient vraiment en train de se poser des questions et que l'invité puisse aider à répondre à ces questions. Pour moi, ça rajoute un enjeu supplémentaire. Si c'était une histoire qui était complètement terminée, bon bah, c'est intéressant aussi. Et peut-être qu'un jour, je m'ouvrirai à ça aussi, parce que c'est une contrainte. Hein. Le fait que ce soit toujours en cours, c'est pas évident. Hein. Il y a plein d'histoires d'amour, mais elles sont pas toujours en cours. Parfois, elles sont finies depuis bien longtemps. Elles méritent quand même d'être racontées. Donc peut-être qu'un jour, je serai plus souple là-dessus, mais pour l'instant, j'ai
Moi, j'aime bien les histoires où il y a une fin, tu vois. Voilà, quand j'ai écouté le dernier avec Maud Ventura, et j'étais en mode « Ah, je suis frustrée, ma fin !»
Alors, c'est pour ça que je me suis dit « Tiens, je vais faire des épisodes « Que sont-ils devenus ?» un jour. » Tu vois, où ils me raconteront, je dirais voir toutes les personnes qui ont témoigné et je dirais est-ce que tu veux bien me dire aujourd'hui où t'en es, comment ça a évolué. Des fois, je reçois d'ailleurs des nouvelles comme ça, des gens qui me disent au fait, des fois, c'est totalement inattendu, hein. C'est hallucinant. Des fois, tu te dis what ? Mais moi, je pensais vraiment que ça allait dans une certaine direction et en fait, non, c'est l'opposé total, comme quoi on peut pas prévoir. Hein. Les relations humaines sont imprévisibles. Donc, un jour, je ferai ça, hein, des épisodes que sont-ils devenus et peut-être qu'effectivement, il y aura aussi plus tard des épisodes avec des fins. Voilà, des fins.
Ça, c'est encore mieux qu'une série. Voilà. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
C'est ça, exactement. Et je pense que l'autre critère, c'est quand même bah, que ce soit toujours un peu feel good. C'est-à-dire pas d'agression sexuelle, de choses graves, si possible. Enfin, si possible, non, vraiment non. Parce que je veux vraiment que les gens écoutent en se disant « je vais passer un bon moment », que ce soit un moment de détente. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit à chaque fois que la chamade, c'est le podcast pour décompresser. Voilà. Et donc, pour moi, je tiens à ça absolument. Donc, j'ai refusé des fois des choses. Ou alors... Parfois, quand il y avait un élément qui ne paraissait pas fondamental dans l'histoire et qui pouvait être un petit peu glauque, ou je disais carrément à la personne, est-ce que tu es OK pour que j'enlève... De toute façon, j'anonymise derrière, donc c'est sûr que je retravaille l'histoire, mais je dis carrément, est-ce que je peux enlever ce passage-là, enfin cette info-là, parce qu'elle ne me paraît pas de toute façon essentielle. Et en général, à chaque fois, les gens me disent oui, il n'y a pas de souci. Et voilà. Mais si c'était déterminant dans l'histoire, bah, je ne raconterais juste pas l'histoire, quoi.
OK. En tout cas, effectivement, on se rend compte du travail du coup qu'il y a derrière, parce que nous, on a juste le produit fini, on est content, ça dure 40 minutes, on est même en mode, j'en veux plus. Et au final, pour toi, derrière, c'est vrai que c'est quand même une montagne de boulot. Tu fais tout toute seule ?
Oui, je fais tout toute seule. Il y a eu un moment donné où j'avais délégué pendant deux ou trois épisodes, je crois, le montage à quelqu'un. Et en fait, c'est trop galère. C'est trop, trop galère parce que, en fait, il faut quand même que j'ai la main. Donc, en fait, je passais par un logiciel de transcription et je mettais ce qu'il fallait enlever. Et en fait, je passais autant de temps qu'à monter, en fait. Donc, au final, j'ai dit, bon, bah, tant pis, je le refais moi-même, en fait, parce que c'est trop compliqué. Je sais exactement ce que je veux, moi, donc il vaut mieux que je le fasse. Donc, oui, je fais tout de A à Z. Et c'est pour ça aussi que je peux faire qu'un épisode toutes les deux semaines pour le moment, parce que un épisode par semaine, ça devient un boulot pratiquement à temps plein, pratiquement. Et donc là, bah, ça veut dire qu'il faudrait une rémunération pour ça, vraiment. Et donc, c'est pour ça aussi, c'est l'enjeu des sponsors. Peut-être un Patreon un jour, j'aimerais bien demander des sous des auditeurs pour pouvoir sortir un épisode par semaine. Du coup, ce serait moins frustrant, on en aura plus. Mais au moins, moi, je pourrais m'y retrouver financièrement, quoi.
Clairement. Pour toi qui fais du podcast depuis si longtemps, d'un point de vue expérience, est-ce qu'il y a, selon toi, des qualités ou des prérequis à avoir pour être podcasteur ?
Alors, prérequis, savoir écouter. Bon, en fait, ou alors, je ne sais même pas si c'est un prérequis ou si c'est quelque chose qu'on apprend avec le podcast. Parce que moi, finalement, je pense que souvent, je réagis. Ou alors, avant, je réagissais peut-être beaucoup plus quand on me parlait. Alors que là, j'ai appris à me taire, en fait, tendre le micro et ne pas trop parler. Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que des gens qui font dans un podcast. Donc, on apprend vraiment à juste être dans l'écoute totale. Et donc, je pense que c'est un truc que peut-être qu'on développe justement en commençant le podcast. Ce n'est pas forcément un prérequis. Et ensuite, mais en tout cas, c'est indispensable. Sans ça, on ne peut pas faire un bon podcast. Et ensuite, ben, pour moi, c'est écouter beaucoup de podcasts, en fait, hein, parce que c'est ça qui va nous guider ensuite et qui va nous aider. On ne peut pas tout deviner. Des fois, il faut faire écouter des versions de travail à des gens pour savoir ce qui est bien ou pas bien, ce qu'on garde ou pas. Hein. Mais déjà, on peut avoir une intuition parce qu'on a écouté plein de podcasts et parce qu'on sait ce qui est bien, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et donc... j'ai du mal à croire qu'on puisse faire des podcasts sans en écouter vraiment. Mais après, je connais plein de gens qui maintenant font du podcast et n'en écoutent plus du tout. Et moi, je comprends pas. Enfin, moi, j'écoute, je pense, 6 heures de podcast par jour. Il faut dire aussi que ça va que je suis indépendante, hein, parce que si j'avais un travail, si j'avais d'ailleurs des enfants aussi, d'ailleurs, je ne pense pas que ce serait possible. Mais du coup, en fait, ouais, non, c'est toujours garder cette curiosité pour ce qui se fait. Et bien, si j'avais pas continué à écouter des podcasts, j'aurais jamais découvert ces podcasts qui m'ont inspiré pour faire la chamade, en fait. Enfin, donc, pour moi, c'est quand même un peu important de continuer à écouter en tant qu'auditeur sans se prendre la tête, sans essayer de décortiquer. C'est pas parce qu'on est podcasteur qu'on va forcément décortiquer tout ce qu'on écoute, hein, mais juste prendre le plaisir d'écouter des trucs, de découvrir. Et ça nous permet de nous maintenir éveillés, d'être ouverts à des nouveaux formats, des nouveaux sujets, etc. Voilà.
T'es aussi très bonne en storytelling. Est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours su faire parce que t'as un background assez littéraire et que t'aimes écrire ? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler pour le podcast et notamment pour les documentaires que t'as pu produire ?
Alors oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû travailler, vraiment, c'était pas du tout inné. Alors premièrement, vraiment très important, mais dans le podcast, on est rarement seul. Hein. C'est rare qu'on fasse des documentaires seuls, il y en a qui le font. Mais en général, c'est quand même une équipe, enfin, si on travaille avec des producteurs. Donc déjà, tout seul, on est rien. Moi, je proposais des idées et à chaque fois, c'était challengé par ma réalisatrice, ma productrice. Enfin, c'est hyper important parce que... on n'est pas bon tout seul en storytelling. Il y a une personne qui va relire ce qu'on a écrit, qui va dire « Non mais là, par exemple, c'est incompréhensible. » Ou bien qui va écouter ce qu'on a déjà commencé à monter et qui va dire « Non mais c'est hyper long, on se fait chier, on ne comprend pas où il veut en venir, ça, c'est pas clair. » hyper important. Ou bien ça devrait m'être mis après ça, parce que voilà, ou bien tu t'es pas rendu compte que tu n'avais pas expliqué qui était machin, la personne qui parle. Enfin, des fois, on a trop le nez dedans aussi. Donc voilà, ça, c'est hyper important. Mais après, ça se travaille. Alors moi, ce que je faisais simplement, c'est que les podcasts américains mettent beaucoup en ligne les transcripts de leurs podcasts. Donc on peut avoir le texte entier, le script entier. Et ça, c'est génial pour les personnes qui sont notamment malentendantes. Et pour les gens comme moi qui ont besoin de décortiquer les podcasts, donc par exemple, moi je l'ai pas mal fait avec une série qui s'appelle Nice White Parents, qui est un podcast de Serial Production, donc pour le New York Times, et qui parle de la ségrégation raciale dans les écoles à New York. Et donc j'ai vraiment un sujet que j'adore et un podcast qui est génialissime. Et j'ai téléchargé plusieurs transcripts de plusieurs épisodes, donc j'avais écouté plusieurs fois déjà. Mais de l'avoir sous les yeux, en fait, d'avoir le papier concrètement sous les yeux, ça me permettait de voir, OK, comment c'est agencé. Là, à peu près le ratio de voix off par rapport au ratio d'extrait d'interview. C'est beaucoup plus visuel, c'est hyper pratique. Et puis, on peut voir des tournures de phrases, la façon que a l'hôte du podcast de présenter les personnages, toutes ces petites techniques de storytelling, en fait, qui sont... Voilà, on n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose, on n'a pas besoin d'avoir des règles. Il suffit de décortiquer un petit peu les podcasts qu'on adore et voir qu'est-ce qui marche et peut-être qu'est-ce qui marche pas aussi. Et donc moi je me suis dit ok je vois s'il y a ça qui est malin, tiens ça c'est intéressant, il y a des trucs qui pouvaient évidemment pas du tout s'appliquer à mon podcast et il y en a qui pouvaient. Et puis après il y a aussi de l'instinct, hein, parce que il y a aussi un petit peu de bon bah je devine que ça va marcher ou ça je devine que ça va pas marcher. Mais après c'est faire écouter, être ouvert à la critique, au retour, indispensable. Voilà.
Ok, bah, écoute, si moi s'il y a deux adjectifs qui me viennent quand je pense à toi et ton parcours. D'abord, il y a la ténacité, parce que tu t'es battu clairement pour pouvoir vivre de ta passion. Et ensuite, il y a la curiosité, parce que tu es sans cesse en train d'apprendre et de découvrir des choses, etc. Et je trouve que c'est important de le mentionner, parce que ça fait une belle combinaison.
Oui, c'est vrai.
Mine de rien.
Non, mais t'as raison. Enfin, franchement, après, je suis pas du tout la seule à avoir ces qualités-là. Mais je suis d'accord avec toi que c'est indispensable parce que la curiosité, c'est sinon on trouve pas d'histoire, en fait. Parce que en fait, le podcast, c'est d'ailleurs comme beaucoup d'autres formats, c'est être ouvert aux histoires qu'il y a autour de nous parce qu'on raconte des histoires du réel, en l'occurrence. Enfin, moi, je fais pas de fiction. Donc, il faut être tout le temps avoir... D'ailleurs, ça peut être un peu fatigant hein, parce qu'il faut toujours être un peu aux aguets. Est-ce que, tiens, ça, c'est un truc à creuser. Parfois, ça donne rien, donc on sait pas. Mais potentiellement, toujours être éveillé. Et la ténacité, oui, la ténacité, c'est indispensable, mais d'ailleurs dans tous les boulots créatifs, parce que ça se passe jamais de façon linéaire, sans embûches, quoi. Il y a toujours, on va toujours se prendre des noms, on va toujours se prendre des râteaux. Pareil, quand on enregistre un podcast, il y a des gens qui veulent pas nous parler, qui vont nous parler de façon assez rude. Il faut vraiment, vraiment pas prendre les choses personnellement. Ou alors, si on n'est pas bien, si on est un peu triste, il faut se morfondre un jour ou deux, et hop, on repart. Moi, je me suis fait virer quand même d'une réunion anarchiste pendant mon podcast Les Forces du Désordre, pendant que j'enregistrais, parce que j'étais journaliste, parce que je représentais Slate à ce moment-là. Ouais, et en fait, on m'a demandé de partir devant tout le monde. C'était hyper humiliant, hein, vraiment. Il y avait un côté très, très humiliant. Et pour moi, c'était horrible parce que j'avais l'impression que c'était plutôt ma famille politique, en fait. Moi, c'était ceux avec qui j'avais le plus d'affinité. Et là, j'étais la journaliste et j'avais un micro. Donc, je leur avais dit cash. Hein, j'étais pas venue en mode sneaky. Hein, je leur avais demandé si c'était OK. Donc, voilà. Et là, il y a une sorte de conseil, mais vraiment sous mes yeux. Tout le monde a donné son avis et on m'a dit de partir. Et donc, et parfois, c'est des producteurs qui vont nous dire de façon plus ou moins sympa qu'ils ne veulent pas du projet. Voilà, il faut, c'est pas grave, il faut repartir, c'est normal. Et ça serait pas normal justement que tout marche tout le temps comme sur des roulettes. Enfin, je vois pas à qui ça arrive. Et si on se rend pas de refus, c'est qu'on n'a même pas essayé en fait, c'est qu'on n'a même pas envoyé ses projets. Donc il faut être ouvert au refus, il faut être OK avec ça.
Carrément. T'as travaillé sur beaucoup de documentaires jusqu'à présent. Est-ce que tu t'imposes un rythme ou pas, puisqu'après tout, c'est avec ça que tu gagnes ta vie? En tout cas, la majorité de tes revenus. Donc, comment est-ce qu'il y a un peu de pression dans le fait de je dois produire, par exemple, tant de documentaires dans l'année, ou tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas produit, donc il faut que je commence à trouver une histoire, ce genre de choses?
Oui, il y a une vraie pression là-dessus, parce que c'est vrai que Damien, ça m'a vraiment fatiguée au bout de 2 ans. Et je me disais, oh là là, il me faut une grosse pause, parce que vraiment, j'en peux plus. Et oui, d'un autre côté, il faut aussi que j'ai des sous, quoi. Et mon truc aussi, c'est qu'on n'a pas parlé du statut, mais moi, pour l'instant, je suis en micro-entreprise. Donc, je suis payée en facture. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de chômage, je n'ai pas d'arrêt maladie, rien. Je cotise aussi très mal pour les retraites. Et aujourd'hui, je regrette vraiment de ne pas avoir pris plutôt le statut d'intermittente, parce qu'en fait, depuis le début, hein, j'aurais fait les 507 heures par an, quoi. Vraiment, je bossais à chaque fois pas mal. Et donc, ça aurait été pas mal. Sinon, il y avait aussi l'option pigiste. Comme les journalistes, quoi. Il y avait ces deux options-là et je regrette de ne pas avoir fait l'un ou l'autre parce qu'aujourd'hui, j'aurais du chômage, par exemple. Et c'est ce que je suis en train de revoir complètement mon statut et je pense que je vais m'acheminer vers ça. Comme ça, il y a un peu moins la pression. Il y a toujours une pression. Hein. On n'est pas payé à rien faire hein, quand on est intermittent. Mais en tout cas, il y a un peu moins de pression. Et donc là, aujourd'hui, oui, parce qu'en fait, forcément, on se dit, tu vois, la chamade, là, j'essaie de le monétiser. Je suis en train d'être en contact avec des sponsors pour commencer à toucher de l'argent. Mais déjà, ça ne va pas être beaucoup d'argent au début. Et puis, c'est long à se mettre en place. Alors que quand on case un projet chez un producteur, là, on est payé, point barre, en fait. On est payé par le producteur. Ce n'est pas nous qui allons chercher les sous. C'est très clair. Le fonctionnement est simple. Et voilà. Par contre, ce qui n'est pas simple, c'est de se faire accepter un projet. Et puis, ce qui n'est pas simple aussi, c'est de retrouver son énergie pour proposer des nouvelles idées alors qu'on est complètement rincé. Moi, je suis arrivée à un stade où j'étais complètement rincée. Là, ça commence à revenir. Donc, voilà. Mais effectivement, oui, j'ai cette pression-là de renvoyer des pitchs à des producteurs, des productrices pour me lancer dans une nouvelle série ou alors des petits épisodes par-ci, par-là aussi. On peut très bien faire des épisodes pour un flux de podcasts qui existe déjà. Enfin, voilà, il y a des options, quoi.
C'est quoi ton objectif ultime? Si tu avais une ambition, ce serait quoi?
Vraiment une ambition? Alors, pas du tout de lancer un studio de podcast, par exemple.
Purée, j'attendais ça. Je me suis dit, c'est sûr, elle va lancer un studio, une agence, un truc.
Pas du tout. Alors là, pas du tout. Non, pas du tout. Franchement, quand je vois les studios de podcast, c'est une galère financière sans.
Ah ouais.
Je pense que le podcast, c'est très, très peu rentable. Je pense que, honnêtement, ces structures-là, des startups, c'est... Enfin, c'est un stress quotidien. D'ailleurs, on voit, hein, y a du management très toxique. Encore une fois, c'est sorti dans Mediapart et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est stressant. Mais bon, après, il y a des choses qui peuvent être faites aussi pour amortir ce genre de choses. Hein, c'est pas inévitable. En tout cas, non. Puis en plus, moi, j'aurais trop peur d'être la personne qui doit un jour. T'imagines, si t'es patron, ça veut dire qu'un jour, tu dois peut-être licencier des gens. Enfin, en tout cas, ça
doit être responsable. J'y pense souvent.
Moi, je peux pas. Hein. Ça, c'est impossible. C'est horrible. Et puis, en fait, tu dois réfléchir comme un patron, donc tu réfléchis en termes de rentabilité. Tu n'es plus l'allié des salariés, tu n'es plus salarié, tu es patron. Et en fait, pour moi, tes intérêts ne sont pas ceux des salariés. Et je ne veux pas être ce genre de personne. Donc en fait, ça ne m'intéresse pas. Tout ça pour vraiment plus des galères financières, quoi. Si au moins je devenais riche dans l'histoire. Mais non, non je rigole. Mais non, tu vois. Donc non, en fait, honnêtement, j'aimerais bien être productrice dans une grosse boîte genre Spotify un jour, mais d'être à la tête du truc, quoi. Mais d'ici 10 ans, hein, on a encore le temps, hein, on n'est pas pressé. Mais j'aimerais bien un jour être vraiment à la tête de... Mais il me faut de l'expérience dans la production avant. Donc il faut quand même, parce que j'ai une bonne expérience en tant qu'autrice, mais ça ne suffit pas. Et donc j'aimerais bien un jour avoir ce poste, par exemple chef podcast chez Spotify, parce que là, on est dans une entreprise qui est beaucoup plus grande que nous, et qui n'est pas éthiquement parfaite non plus. Enfin, je veux dire, il y a aussi des questions qui se posent, vraiment. Mais en tout cas, les sous ne dépendent pas tellement de nous. On n'est qu'un maillon, en fait, d'une énorme entreprise. Et je trouve ça bien. Enfin, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et par contre, après, il y a d'autres problèmes aussi. Hein. C'est que je pense que ces grosses boîtes-là, comme Spotify, elles doivent signer un certain nombre de célébrités par an pour lancer leur podcast. Et moi, ce n'est pas toujours quelque chose avec lequel je suis raccord. Je trouve qu'il y a plein de bullshit aussi dans ces podcasts-là. Bon, bref. Mais en tout cas, je me suis dit que ouais, ça serait plutôt ça. Si un jour, je passe du côté de la production, et voilà, ça serait déjà pas mal. Ou alors, vraiment un rêve ultime, ça serait de bosser un peu aux États-Unis, vraiment. Là, je commence à bosser avec des Américains, mais depuis la France. Et j'aimerais bien peut-être un jour travailler aux États-Unis, parce que, bah, encore une fois, les podcasts que j'adore sont des podcasts américains. Ils sont trop forts, ils ont des équipes de malades. Mais en ce moment, la situation est pas dingue financièrement non plus là-bas. Il y a beaucoup, beaucoup de licenciements dans le podcast, même chez Spotify, partout. Donc, c'est pas le moment, mais un jour, s'il y a un regain de l'activité podcastique, j'aimerais bien un jour aller aux États-Unis, ouais.
Quand tu dis que tu travailles actuellement avec des Américains, c'est le même concept qu'en France, tu vends des contenus ?
Pareil, exactement. Donc là, je suis allée à New York en novembre, j'ai rencontré des producteurs et des productrices qui sont vraiment hyper accessibles. Enfin, j'ai vraiment rencontré des gens incroyables, mais que j'aurais jamais pensé voir de ma vie, juste parce que je leur envoyais un mail et qu'ils sont méga sympas. J'ai pitché des projets, il y a notamment un podcast avec lequel j'ai bien matché, l'hôte du podcast, et donc je lui ai proposé plusieurs sujets. Il m'a dit « Ok, celui-là, ça m'intéresse ». Et quand je suis rentrée, j'avais un mail de la productrice avec qui il bosse qui m'a dit « Ok, est-ce que tu peux on peut se faire un call ?» Et donc bref, là, je viens de terminer les enregistrements pour ce podcast et ça va sortir, je ne sais pas quand, mais en tout cas, là, je vais commencer à faire le premier script. Mais c'est exactement le même fonctionnement qu'en France. Ouais, pareil.
D'accord. Ok. À quoi ça ressemble une journée avec Samia ? J'imagine bien que tu n'as pas des journées type, mais je me demande comment tu organises ta semaine, quelles sont les tâches que tu peux faire, etc.
Ouais, alors effectivement, comme tu l'as dit, mais de toute façon, quand on est indé, je pense qu'on n'a jamais des journées type. Alors moi, je m'arrange toujours pour avoir quand même, dans la semaine, plusieurs rendez-vous avec des podcasteurs, podcasteuses, ou des producteurs, productrices, etc. Enfin, en tout cas, des gens de ce milieu-là. Déjà parce que j'ai besoin de sortir, de voir des gens, boire un café, discuter de création sonore aussi. C'est génial, en fait, on s'échange aussi des conseils d'écoute, des conseils aussi tout court pour... l'industrie du podcast en France, tiens, j'ai vu passer tel poste, ou bien t'as vu ce qui s'est passé là, même des fois, ce qu'on pourrait appeler du gossip, hein, mais c'est important de se tenir informé quand on est indé de tous ces trucs-là. Donc pour moi, déjà, c'est hyper important d'avoir plusieurs rendez-vous à l'extérieur par semaine, et ensuite, y a forcément aussi une grosse part solitaire, puisqu'il y a une part d'écriture ou de pitch, tu vois, quand on écrit quelque chose, on propose des projets, ou bien quand on écrit les épisodes. J'aime bien aussi quand je suis en train de concrètement enregistrer un podcast et que je suis sur le terrain un certain nombre de jours dans la semaine ou un certain nombre d'heures dans la semaine. Là, par exemple, ça se passe avec le podcast américain dont je parlais. Là, en ce moment, je viens de finir de tourner ça. Donc, c'est hyper important aussi parce que là, on est toujours en train de rencontrer des nouvelles personnes. Enfin, à chaque fois, on se refrotte un peu à cet exercice-là. La chamade occupe beaucoup de place maintenant dans ma vie. Donc, finalement, il y a une grosse partie qui est dédiée à... les relations avec les attachés de presse pour trouver des invités, les relations avec les personnes qui m'envoient leur histoire, les rappeler, après scripter, enfin, organiser mon calendrier là-dedans aussi. Enfin bref, donc au final, la chamette, c'est de plus en plus important. Mais voilà, enfin, j'ai répondu à un truc, c'est un peu all over the place, mais bon, t'as compris.
Non, mais ça donne une petite idée concrètement, effectivement, de ce que tu fais. Après, je me doute que l'organisation dépend de chaque journée, mais au moins, voilà, on peut avoir une image de ce à quoi ressemble la vie d'une podcasteuse professionnelle, puisque c'est vrai que moi, ce que je mets beaucoup en avant, c'est le côté entrepreneur, mais vente de formation en ligne, etc. Je trouve que ton métier à toi, même si on est dans le même domaine et dans la même niche, il est totalement différent. C'est d'autant plus intéressant.
Tout à fait. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est hyper différent d'un métier à l'autre. Hein. Quand on est indé, on n'a pas, il y a pas deux personnes indé qui font la même chose. Hein. Ouais, ouais.
Clairement, clairement. Écoute, on arrive à la fin de mes questions.
Oui, bah écoute, merci beaucoup.
Bah merci à toi. Franchement, c'est un plaisir d'échanger avec toi et d'en savoir plus sur tout ce que tu peux faire. Moi, je te l'ai déjà dit, mais je le redis, j'adore ce que tu fais. J'aime beaucoup La Chamade, je pense que c'est mon podcast préféré. Donc, si vous ne le connaissez pas, il faut aller l'écouter. C'est vraiment un coup de vibes, comme tu dis. C'est du bon contenu, pour le coup, pour se détendre et se divertir. Si on a envie d'en savoir plus sur toi, eh bien, on peut te suivre sur Instagram, samia.miskina, c'est ça ?
Il n'y a pas de point, je crois, d'ailleurs. Je crois que c'est Samia Miskina en un seul mot, avec le K de Miskina. Voilà, c'est avec un K, quoi. Voilà.
Et puis t'as également une chaîne YouTube où il y a aussi beaucoup de contenu. Donc
pareil,
je trouve que c'est
ouais.
Bah voilà, très bien. Ce sera dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup.
Merci Safia.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.